Et il y a un point que je trouve très beau, je vous ai mis une citation de Thomas d'Aquin, toujours sur le même sujet. Sur qu'est-ce qu'on veut quand on est ami? Qu'est-ce qu'on veut d'abord? Vous avez des gens, vous savez qui, c'est-à-dire vous en fait, gens qui pensent qu'à moitié, qui disent que, voilà, aimer... C'est tout donné, merci. Non, il y a mieux. Parce qu'il y en a certains qui vont dire, bon, aimer, c'est tout donner, bon, peut-être c'est un peu, voilà, faut recontextualiser. Il y en a d'autres qui diraient, aimer, c'est sentir des trucs forts pour quelqu'un. Bon, vous êtes trop intelligent, si vous voulez, mais à moitié ce que je vous ai dit. Alors, vous allez dire, aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un. C'est ça que vous avez appris. C'est écrit, d'ailleurs, Thomas d'Aquin l'écrit comme ça. Mais souvent, Thomas d'Aquin, il écrit comme ça à un endroit, mais à d'autres endroits, il dit d'autres choses. Hein. Faites attention, parfois, il ne faut pas rester à faire des slogans. Vouloir le bien de quelqu'un. Si vous en restez là, en fait, si vous pensez que c'est la première chose dans l'amitié, c'est vouloir du bien, vous voyez, vous êtes dangereux. Pourquoi est-ce que vous êtes dangereux ? C'est pour ton bien. Alors ? Alors voilà, bon, encore qu'on peut difficilement penser le bien de quelqu'un qu'on supprime, mais on peut imaginer une chose, mais vous n'êtes pas loin en fait, c'est effectivement ça, mais on pourrait le prendre d'une manière plus générale, oui Guillaume. Oui, le dictateur peut, au nom du bien, je veux dire, bien sûr, il a une idéologie du bien qu'il va vouloir imposer, oui.
Ça peut être une pression.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez le problème de cette structure de pensée où le bien se sépare de l'être. Et alors, je veux ton bien, ça veut dire que je ne vais pas considérer d'abord ton être, mais je vais projeter sur toi parfois l'idée que je me fais de ton bien. Vous voyez ? C'est toujours le grand danger. Combien de parents bien intentionnés veulent le bien de leur enfant et l'étouffent ? Parce qu'ils le valorisent à partir d'une échelle de valeurs qu'ils imposent à son être sans considérer ce qu'il est. Mais ce dictat peut être celui d'ecclésiastiques, vous voyez, qui veulent vous imposer d'en haut les choses, qui ne cessent de dénoncer le péché, mais qui n'accueillent pas la situation concrète de gens. Je pense que c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que ça renvoie peut-être au fond du débat qu'il peut y avoir avec autour d'Amoris Laetitia. Vous voyez. C'est-à-dire, il faut vouloir le bien, il faut affirmer le bien, il faut dire ce qu'est le bien. Oui, mais attendez, ce bien, il est pour des personnes concrètes qui ont une histoire concrète. Qu'est-ce qu'elles sont d'abord ? Est-ce que tu reconnais d'abord qu'il est bon que ces personnes existent ? Même si elles ont divorcé, même si elles ont avorté, même si elles ont... Est-ce que tu penses qu'il est bon qu'elles existent, d'abord ? Vous voyez ? Ou pas ? Ou pas, où tu rêves d'être dans un monde idéal, sans divorce, sans machin, sans rien, vous voyez ? Ça s'appelle l'enfer. Parce que c'est ton monde idéal, dans ta tête, tu es tout seul. Vous voyez, c'est ça la question. Alors, écoutez ce que dit Thomas d'Aquin ici, parce que c'est un des textes les plus... fondamentaux qui vous permet de voir dans l'ordre les choses. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que Thomas d'Aquin, dans son humilité, toujours dit qu'il ne fait que citer Aristote, mais il remet de l'ordre dans ce que dit Aristote, en fait, dans l'Éthique à Nicomaque. Et regardez ce qu'il met en premier. Il y a 5 conditions propres à l'amitié, chacun des amis en effet. Premièrement, vous voyez, c'est pas une liste indifférente, il y a un ordre. Hein. Veut l'existence de son ami. et qu'il vive. Et aimer quelqu'un, c'est d'abord dire « il est bon que tu existes ». C'est pas « ça sera bon, tu seras bon quand tu auras accepté le bien que je vais te donner ». Vous voyez, c'est non, il est d'abord bon que tu existes. Je veux que tu existes. La femme qui a divorcé, qui a avorté, je veux qu'elle existe. Parce qu'elle existe. Hein. C'est pas que je veux qu'elle existe au sens que je la veux dans un futur. Cette femme qui existe, ouais, je veux en plus qu'elle existe. C'est-à-dire, je consens à son existence. Et consentant à son existence, je consens à l'acte créateur, à l'amour créateur qu'il a fait être ici et maintenant. Parce que, vous voyez, fût-ce un djihadiste, s'il existe, c'est qu'il est aimé de Dieu. Donc, je dois d'abord consentir, vous voyez, à son être. Sans cela, je m'égare, vous voyez, dans une idéologie du bien. Je pense le bien non pas à partir de l'être, vous voyez, mais à partir de la valeur. Deuxièmement, il lui veut du bien. Vous voyez, c'est dans un second temps. On veut du bien, mais à partir de l'être. Je veux d'abord qu'il soit lui. Vous voyez, je peux avoir une vision du bien pour Justine, mais je veux d'abord que Justine soit Justine. Et je suis heureux qu'elle soit Justine, avec son histoire, avec ses problèmes, avec voilà, tout ça. Vous la connaissez comme moi, bon. Mais en même temps, d'abord, voilà, cette merveille que ce soit elle et pas quelqu'un d'autre. Et c'est à partir de là que vous voyez, je peux considérer son bien. Mais s'il n'y a pas ça, je vais toujours fantasmer le fait qu'elle va entrer dans une certaine catégorie du bien, dans une certaine projection que j'aurai, vous voyez, dans des archétypes du bien que je me serais fait. Donc d'abord, je veux l'existence de l'autre. Et ensuite, je lui veux du bien. Et ensuite, je lui fais du bien. Vous voyez, vous avez remarqué, on était dans les premiers cas dans quelque chose qui était de l'ordre de l'opération immanente. Je n'ai pas encore fait, là. D'abord, je suis heureux qu'il existe. Ça, c'est de l'ordre d'opération immanente, ça. Parce que cet acte-là, reconnaître qu'il est bon que l'autre existe, c'est ma propre volonté qui est perfectionnée ici. Vous voyez ? Je lui veux du bien. Et ma propre volonté qui est perfectionnée. C'est à ce fond de cet agir. À partir de là, je lui fais du bien. Et puis, se faire du bien, c'est pour déployer ce vouloir qu'il vivre. Donc, c'est « je vis avec lui ». Et quatrièmement, je lui fais du bien, je vis avec lui dans la joie, ça me fait plaisir d'être avec lui. Et cinq, stade ultime, l'ami n'a qu'un cœur avec lui, partageant ses joies et ses tristesses. Et la communion vient au final. Et communauté, communion. Et là, vous voyez, pourquoi je vous ai pris ce texte ? Parce que dans ce texte, vous voyez ce qu'il en est de l'agir moral. Si notre être est un être profondément de communauté, d'amitié, si avant d'échanger des biens matériels, on échange des paroles, et si le premier acte, donc, si vous voulez, de la première aumône, c'est l'aumône de cette vie dans la parole, et donc cette vie avec l'autre qu'on puisse faire, vous voyez, ça n'implique pas qu'on va oublier de donner un bol de soupe, vous voyez, mais vous voyez, à la fois en amont, je suis heureux que l'autre existe, et en aval de ce don du bol de soupe, je vis avec lui, et je cherche la communion avec lui. D'accord ? Donc vous avez vu que faire du bien, ça se situe au milieu hein, des cinq opérations de l'amitié. C'est l'opération centrale. C'est important de faire du bien. C'est pour ça que c'est ça qu'on voit en premier, si vous voulez. C'est le plus visible, c'est le plus manifeste, et c'est important, c'est une urgence. Mais cela n'est pris dans un agir et ne se réduit pas à une technique que si c'est enveloppé, voyez, par cette amitié qui veut que l'autre existe d'abord et qui après, voyez, tend vers ce vivre avec l'autre. Alors, Madeleine.
J'arrive pas à formuler mes questions, mais j'arrive pas trop à comprendre en quoi c'est mal de dire je veux ton bien. Enfin, en quoi c'est. Si le bien, c'est quelque chose, c'est la morale, c'est quelque chose qui est objectif.
Oui.
Je veux ton bien, on a envie qu'il corresponde, enfin, pas correspondre. Qui répondent à sa finalité.
Tout à fait. Tout à fait. Vous avez raison, mais alors, ce que je me précise, bien sûr que j'ai exagéré en disant que c'était aberrant de dire aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un, vous voyez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vouloir effectivement ton bien, c'est de penser le bien, non pas simplement au point de vue de l'idée générale de bien. Et donc, je vais entrer dans le particulier. Mais comment est-ce que je vais entrer dans le particulier ? En considérant l'être de l'autre, et donc en voulant d'abord qu'il soit lui-même. Et c'est ça ce que je veux rappeler, c'est que malgré tout, bien sûr qu'on doit dire vouloir le bien, mais cette parole, il faut l'expliciter en disant qu'avant, il y a le fait que je veux l'autre en tant qu'autre. Vous voyez ? C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire, je te veux toi avant de vouloir ton bien. Et je te veux toi, autre, en tant qu'autre, pas toi par rapport à moi seulement. C'est à ce moment-là qu'il y aura communauté et communion. Parce que la communion ou la communauté, ça suppose des êtres divers. Ce n'est pas complètement, radicalement différent. Vous voyez, donc je dois vouloir cette différence. Et plus je voudrai cette différence, et plus j'entrerai aussi dans une relation avec l'autre en tant qu'il est différent, plus la communauté sera riche, si vous voulez. Plus la relation sera riche. Aude.
Le fait que je veuille le bien de l'autre et donc que je vis avec lui, c'est que je suis dans une phase où moi je me vois comme bien pour l'autre. Et donc il y a d'abord avant l'amitié, en fait, il y a une phase d'acceptation de soi. Hein.
Oui, c'est pour ça que le faire du bien ici est antérieur à être avec. Parce qu'on peut imaginer des situations où vous ne pouvez pas être avec. Je vous prends un exemple. Je suis amoureux d'une femme qui n'est pas ma femme. Ça peut arriver ? Ça peut arriver. D'accord ? On ne va pas nier que ces choses-là puissent arriver. Bon. Là où je me tromperais, c'est que j'aille jusqu'à ce stade où je vais vivre avec elle, vous voyez, jusqu'à... Mais non. En revanche, je peux lui faire du bien, et d'ailleurs, reconnaître son être, et reconnaître même mon être à moi, c'est-à-dire d'homme marié, etc., je devrais faire attention, justement, à dépasser, vous voyez, le caractère, je dirais, d'envie, de truc, de cet amour, et à essayer de faire du bien à l'autre. Je ne vivrai pas avec lui. Je ne vivrai pas avec lui. Et je sais, ce serait une catastrophe. Ou alors, je suis amoureux d'une femme mariée. Imaginez, ça peut arriver. Mais à ce moment-là, vous voyez, si je considère son être... Je pourrais lui faire du bien en fonction de son être, mais là, il faudra bien que j'accepte que ma vie avec elle, ça sera ma vie sans elle. C'est la seule manière pour moi d'être vraiment avec elle. Si je me mets avec elle et j'ai fait divorcer de son mari ou ce truc, je crée un truc atroce, si vous voulez, au nom d'un bien romantique, tout ce que vous voulez. Mais en fait...
Mais du coup, c'est quand même une projection. Est-ce que je projette quand même son bien ou moi, je me situe en fonction d'elle en disant son bien, c'est de ne pas être avec elle.
Non, parce que c'est en fonction d'une objectivité, c'est ce qu'elle disait quand même. Je dois considérer l'être de l'autre objectivement et je dois voir objectivement ce qui est bon pour elle, pas simplement par rapport à moi. C'est bien ça dont on parle, c'est que... je vois qu'elle est mariée chrétiennement dans un mariage indissoluble. Je dois d'abord faire ça. Je peux pas tout d'un coup viser son bonheur. Alors même qu'elle voudrait partir avec moi. Supposons même. Vous voyez ? Pourquoi j'ai pris cet exemple ? Non pas parce que je subis cette tentation, hein, loin de là. J'aime ma femme et je suis pas amoureux d'une autre femme, mais parce que je pense à Charles Péguy. Et que c'est une chose qui s'est passée dans la vie de Charles Péguy. Vous savez, Charles Péguy, il a épousé une femme. Pourtant, il ne l'avait même pas épousée chrétiennement, je crois. Mais il a épousé une femme qui était la femme qui était la sœur de son meilleur ami. Hein, et si vous voulez, il ne voulait pas la laisser seule. Donc ça a été un mariage vraiment aussi d'amitié, si vous voulez, d'amitié avec son ami qui est mort, son meilleur ami qui était mort, hein, je vous dis, qui est mort jeune, etc. Donc à cause de cela, il a aimé cette femme avec de la pitié, avec de la, voilà, il a eu des enfants avec elle. Puis tout d'un coup, alors qu'il devient un homme mûr et qui devient même le Charles Péguy qu'on connaît, il rencontre une femme blanche dont il tombe éperdument amoureux. Vous voyez ? Et qui est la femme, on pourrait dire presque la femme de sa vie, au sens romantique du terme, quoi, vous voyez, de sorte de... Ils se voient, ils se comprennent, vous voyez, elle est intellectuelle comme lui. Imaginez, hein. Et puis, vous avez un poème de Péguy qui raconte cette histoire, mais il faudrait que je vous retrouve le poème, je ne l'ai pas sous la main, on pourrait le lire un jour... où il parle de tenir l'honneur. Vous voyez ? Où il a le choix, en fait, entre une sorte de plaisir sans honneur et un honneur qui sera forcément un déchirement total. Mais ce n'est pas ça qu'il va choisir. La grandeur de Péguy, elle est peut-être dans cette histoire-là, la chose la plus héroïque qu'il ait fait. Ce n'était pas de s'entraîner pour la première guerre et puis de se faire flinguer très tôt dans les batailles. C'est peut-être cette histoire-là. Vous voyez, un homme qui a conscience que la seule manière qu'il avait d'être justement, vraiment, pour le bien avec elle, c'était d'être sans elle. Vous voyez ? Et c'est beau. Et c'est beau. Mais l'enjeu, ce n'est pas de nier que nous puissions être traversés par des sentiments irrationnels, des choses qui, vous voyez, qui tout d'un coup ne coïncident plus avec notre situation réelle. Ça peut arriver. Mais l'enjeu, c'est de tenir la réalité, c'est de tenir l'honneur. Vous voyez. Et là, on fait des choses bien plus belles, bien plus fortes que toutes les images... du romantisme, vous voyez, qui conduisent finalement au règne du divorce, de l'idylle. Vous comprenez ? Mais ce n'est pas parce que je vais tenir absolument une règle, ce n'est pas ça, c'est parce que je vois objectivement ce qu'est le bien. Vous voyez, donc il y a cette objectivité. Donc c'est pour ça que la phrase « je veux qu'il existe », ça veut dire « je veux qu'il soit l'autre, que je sois aussi moi-même », et que, vous voyez, je considère ce qui est notre situation réelle, ce qui est objectivement le bien et le mal pour nous, dans notre différence, et dans, vous voyez, c'est ce concret, quoi. Vous comprenez ? Je ne sais pas si je me suis expliqué. Oui, bon. Alors, voilà pour cette huitième leçon qui s'intitulait « L'être et l'autre ». Tiens, je ne le savais pas. Vous non plus. Je rends sa feuille à Guillaume. Oui. Vous avez raison, en fait. Pourquoi appeler l'aimer la bien-aimée, finalement ? C'est poser tout de suite une exigence, en fait. C'est rappeler l'exigence que celle que j'aime, je dois l'aimer bien. Et donc, ça montre bien, justement, que... Je suis passé de l'amitié à l'amour, ici, vous avez vu le glissement. Bon, c'est ce qui n'est pas tout à fait anormal, mais il est certain que dans l'amour, bon, il y a cette dimension de passivité. On est attiré par l'autre, vous voyez. Ce n'est pas un acte simplement volontaire. Mais à l'intérieur de cette attirance, tout d'un coup, va se déployer une volonté. Vous voyez, l'amour, vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un par un simple acte de volonté. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment le déconseil. Il faut qu'il y ait attirance. Ce n'est pas attirance, évitez. Mais vous ne pouvez pas non plus penser qu'il ne s'agit que d'une affaire d'attirance sans la volonté. Parce que cette attirance, c'est-à-dire votre volonté, qui est là, vous êtes entraîné d'abord de manière passive et après, vous s'est ressaisi par votre volonté, qui va à la fois tenir contre les... qui va donner une assise, si vous voulez, au caractère, je pourrais dire, fluctuant de l'émotion d'abord, mais qui aussi va dire, mais qu'est-ce que j'aime, je suis attiré, mais qu'est-ce que c'est que son bien vraiment? Qu'est-ce que je dois le vouloir pour cette personne si je suis attiré pour elle? Et c'est à ce moment-là que elle devient l'aimée et bien aimée. Vous voyez? Donc ça va supposer un discernement, une intelligence, une fréquentation, et puis vous voyez cette volonté qui va ajuster à chaque fois, qui va voilà cette attirance qui d'abord est passive, qui n'est pas en soi volontaire. D'accord? Alors c'est très bien parce que ça nous amène à la neuvième leçon sur les vertus. Donc dernière leçon. La morale d'Aristote et de Thomas d'Aquin, la grande morale de l'Église, hélas complètement balayée par tout ce qui a des tas de manuels, vous savez, ou ecclésiastiques, où on vous parlait des lois, on vous parlait, vous voyez, de la conscience, mais on oubliait de parler des vertus. On en a parlé avec ce que disait Pinkars, hein, la morale des vertus, finalement, est une morale qui a été largement négligée à partir, on pourrait dire, du 18e, 19e siècle, oui. Je ne sais pas, j'en ai fait peut-être pas assez. Il vous reste des feuilles, non? Non? Bon, vous lisez avec votre voisine, puis vous ferez... Alors, c'est intéressant parce que la vertu correspond exactement à ce que je viens de décrire, si vous voulez. On a des passions, on a des désirs, des choses qui adviennent, et la vertu, c'est la raison qui à la fois accueille ce donné, l'accueille, le purifie, lui donne à la fois une fermeté, une direction, une lumière. Et la première affirmation liée à la vertu, c'est que on part pas de rien dans la vie morale. On part de nos passions. C'est ça qui est intéressant dans la pensée des vertus. C'est que c'est une pensée réaliste. Pensée des vertus, c'est de dire que il s'agit pas d'appliquer une loi d'en haut. Vous voyez ? Il s'agit de voir qu'en nous, il y a des passions qui sont comme des chevaux sauvages. Hein ? Une image que vous trouvez chez Platon, d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous devez faire ? C'est quoi tout le travail de la morale ? C'est pas d'abattre le cheval. Si vous abattez le cheval, c'est fini, vous chevauchez plus, hein, vous n'allez plus faire du cheval. C'est la morale, c'est l'équitation, d'accord ? Donc, vous n'allez pas abattre le cheval. Mais vous allez le dresser, apprendre à le monter. Et alors, bien sûr, hein, dans le manège, vous allez tomber plusieurs fois, etc. Vous allez devoir vous munir d'une bombe. La bombe, c'est le casque. Hein, vous savez. Non, j'explique parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'une bombe. Donc la bombe, il y a deux bombes que pour le cheval, en fait. Vous mettez... Vous voyez ? Mais ça va... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais si vous pensez que tout d'un coup, le mieux pour vous, vous savez, pour galoper plus facilement, plus rapidement, c'est vous tuer le cheval, et vous arrivez avec simplement les bottes d'écuyer et la bombe, et la cravache, et vous dites comme ça, je vais aller plus vite, vous êtes foutu. Oui. Ou alors l'autre truc, c'est de dire, je dresse pas le cheval, c'est super, laissons les choses à l'état sauvage. Et dans ce cas-là, vous êtes tout le temps désarçonné. Et là aussi, vous n'avez pas avancé, vous voyez. Donc voilà, la logique des vertus, c'est ça. C'est de dire qu'on part des passions, mais que ces passions doivent être disciplinées. Et qu'une raison qui se voudrait tellement souveraine qu'elle mépriserait ces élans naturels en nous, les passions. Vous voyez ? Eh bien, ça s'effondre. On tombe dans une morale qui non seulement n'a rien d'excitant, style Kant, vous voyez ? Pas très excitant, vous voyez ? Et surtout, on arrive, vous savez, à ces gens qui ne voient pas que ça prend du temps, si vous voulez, donc ils vous disent « Comment t'as pas été bon en saut d'obstacle ?» Alors que ça fait 2 jours que tu fais du cheval. Non mais c'est stupide. Ça prend du temps. D'accord ? Alors, je reprends. Bien sûr que le mot « vertu », c'était juste une introduction pour faire comprendre de quoi on parle, en fait. Hein. Ce que je voudrais essayer de vous expliquer. D'abord, le mot « vertu », c'est devenu un mot ringard. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous arrivez dans un débat sur un plateau télévisé, vous parlez de « vertu ». En plus, ça finit avec la voyelle « u », qui est fatale. « T-U », c'est « vertu ». Ce que fait votre bouche à ce moment-là, personne ne kiffe. Alors que kiffer, oui. Tout de suite, c'est le cul de poule. Alors là, ça y est, vous êtes classé. Le type, il a parlé de vertu. On voit sa bouche en cul de poule, c'est un giscardien. C'est pas possible. La vertu, c'est... Dès que vous parlez de vertu, aujourd'hui, vous faites partie des gens coincés. Vous voyez ? Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que c'est très difficile de redéployer une morale des vertus, parce que le mot a été, d'une certaine façon, galvaudé et condamné. Donc, il faudrait... Soit vous trouvez un autre mot, soit vous allez faire tout un travail au préalable pour que les gens entendent ce que ça veut dire. Vous voyez ? C'est pour ça que vous êtes souvent piégés. C'est assez terrible. Alors, la remarque que je vous fais, c'est une remarque qui est faite par Paul Valéry dès 1934. Et à l'époque où il y avait encore à l'école des prix de vertu. Là, vous pouviez obtenir, on pourrait le faire à Philanthropos d'ailleurs, un prix de vertu. Et bien sûr, les prix de vertu, vous avez remarqué, ont disparu des écoles depuis quelques temps quand même, hein. Mais ça existait encore. Et alors, en 1934, déjà, Paul Valéry disait que c'était complètement ringard. « Vertu, messieurs, ce mot « vertu » est mort. » C'était à l'Académie française. Hein. « Ou du moins, il se meurt. Vertu ne se dit plus qu'à peine. Aux esprits d'aujourd'hui, il ne vient plus s'offrir de soi comme une expression spontanée de la pensée d'une réalité actuelle. Il n'est plus un de ces éléments immédiats du vocabulaire vivant en nous, dont la facilité et la fréquence manifestent les véritables exigences de notre sensibilité et de notre intellect. » C'est fini, vous voyez, c'est plus rien de vivant en nous, ce mot « vertu ». Il y a en quelque sorte fort peu de chance pour l'appel de ce mot dans notre activité intérieure. Il y a gros à parier que l'on peut vivre et réfléchir, agiter et méditer toute une année sans que la nécessité de l'articuler ou de le penser soit une seule fois ressentie. C'est très bon. Oui. J'ai passé plusieurs années sans prononcer le mot « vertu », je veux dire, hein, même dans votre tête. Vous parlez de la vertu d'un médicament, la vertu d'un truc, mais pas la vertu. Quant à moi, je l'avoue, je me risque à vous en faire l'aveu, je ne l'ai jamais entendu. Ou plutôt, ce qui est bien plus grave, je ne l'ai jamais entendu que remarquablement rare et toujours ironiquement dit dans les propos du monde. Ce qui pourrait signifier la petite vertu. Ce qui pourrait signifier que je ne hante qu'un monde assez mauvais, si je n'ajoutais qu'il ne me souvient pas non plus de l'avoir lu dans les livres de notre temps, les plus généralement lus, et même dans les plus estimés. Enfin, je ne vois pas de journal qui l'imprime, ni je le crains qui osa l'imprimer sans se jouer de lui. Voilà. Donc vous prononcez le mot « vertu », vous êtes foutu. Fini, vous avez déjà perdu. Et c'est pour ça qu'on est quand même assez embêté, parce que quand vous faites un cours, sans ce préalable, vous voyez, j'aurais pu vous faire ce cours sur la vertu, etc. Mais sans ce préalable, vous voyez, c'était déjà fichu, quoi, parce que vous seriez dit, c'est un discours complètement poussiéreux, quoi. Oui, mais il a été recouvert par quoi, ce discours de la vertu? Il a été recouvert par le discours aujourd'hui sur les valeurs. On ne parle plus de vertu, on parle de valeurs. On a des valeurs. Quelle est la différence entre la vertu et la valeur? Oui? Exactement. La vertu, elle est immanente. Et la valeur, c'est quoi?
C'est relativiste aussi.
Alors, non seulement c'est relativiste, vous avez raison, mais à la limite, si c'est en soi, ça peut être aussi relatif. Vous voyez, la vertu. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est plus profond, c'est que la valeur, les valeurs, ce sont des préceptes, et donc ça se joue dans l'ordre, vous voyez, vous énoncez une loi, vous dites voilà ce qui doit être, voilà ce qui est fait. Mais le problème, vous voyez, c'est pas simplement de savoir ce qui doit être, c'est de pouvoir le faire. Vous voyez, le discours des valeurs est un discours qui relève du savoir moral. Je sors ici de la critique ordinaire que j'ai faite des valeurs comme séparées de la vie. Admettons même que ce soit des valeurs qui essayent de penser le rapport à la vie, etc. Mais si ça se situe simplement au niveau du savoir. Mais la morale, ce n'est pas une question d'abord de savoir. Vous le savez, c'est une question de pouvoir. Le bien est là pour être accompli, pour être agi, et pas simplement pour savoir ce qui est bien. Et pas simplement pour donner des leçons en leur disant « voilà ce que tu dois savoir ». Parce que si vous en restez au savoir sans réfléchir à la question du pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez parler tout le temps des valeurs, pourquoi faire? Pour condamner. Pour condamner. Par exemple, je vais dire, c'est classique ça, tu savais bien ce que tu devais faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais oui, mais c'est, je peux connaître la valeur, mais tant que je n'ai pas la vertu, je ne peux pas. Je peux très bien savoir le bien, mais en revanche, si j'ai la conscience des vertus, je vais aller lui dire, je vais dire, bon, tu sais, mais entre savoir et réaliser, eh bien, il y a tout ce travail, vous voyez, qui prend du temps, vous voyez, de discipline, des passions, de déploiement, d'épanouissement des passions dans la lumière de la raison. Donc, ça prend du temps, tu es jeune, je comprends. Ou tu es vieux, mais tu es un vieux con. Donc je comprends aussi, il faut du temps. Bon là, il t'en reste plus beaucoup. Vous voyez, ceux qui brandissent les valeurs s'en servent souvent pour poser la question de la morale dans un lieu d'objectivité où plus personne n'est directement concerné, ou plutôt n'est concerné que pour être condamné. Et parce que moi, je peux parler des valeurs, mais si je n'ai pas de vertu, vous voyez, j'en parle bien, et puis tout le monde... Donc on va croire que finalement je suis bon parce que j'ai célébré le bien, mais c'est qu'une valeur. Et puis je vais condamner celui, vous voyez, qui n'agit pas conformément à ses valeurs, voire même aux valeurs qu'il proclame. Alors bien sûr que l'enjeu, c'est d'être cohérent, c'est d'agir en fonction de ce que l'on prêche, mais ça prend du temps. Vous voyez, faites très attention à ne pas être trop vite cohérent. C'est très dangereux la cohérence. Hein. La cohérence, parce que c'est comme ça que les gens vous font arrêter d'aller à l'église. Vous voyez ? Vous avez un soir, vous avez fait un truc pas très clair. Alors les gens vous disent, hey, tu dois être cohérent. Tu peux pas, tu te rends compte, là, tu viens de... T'as pris, tu t'es bourré, là, t'as vomi dans le truc et tout, et là... Oh, c'était dimanche soir, enfin samedi soir, et là on te voit arriver à la messe vert. Et il te dit, mais t'es pas cohérent. Alors qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous avez deux possibilités. Soit vous arrêtez complètement de boire et tout, mais le problème c'est qu'il y a des tentations, c'est difficile, vous voyez. Donc il y en aura certains qui arriveront peut-être à aller à la messe en n'étant pas vert. Mais d'autres, ils se diront, bah ouais, c'est con, pourquoi je vais à la messe? Faut que je sois cohérent. La messe, c'est faux. Ma vie, c'est de me bourrer la gueule. C'est là où moi, je suis cohérent, je suis parfaitement cohérent. Et après, je ne vais plus prêcher le Christ, je vais prêcher la beuverie. Je suis cohérent. Non, ça prend du temps, il y a cet écart. voyez ? Quand le pape François parle de... Je suis désolé de faire l'éloge du pape François, alors que beaucoup le critiquent. À juste raison, non, je ne pense pas. Enfin, parfois à juste raison, mais avec manque de foi. Et alors, quand le pape François, dans la Mairie Cécile, il dit qu'il faut considérer, vous voyez, la temporalité, il faut considérer, vous voyez, le processus qui s'est engagé, pas simplement fixer les choses, à partir de la logique des valeurs. Et c'est parce qu'il est dans une pensée de la vertu. De la vertu, justement. De quelque chose qui va se déployer, vous voyez, à partir de l'être et qui prend du temps. Et qui prend du temps. Surtout aujourd'hui, on a tellement de sirènes qui nous parlent d'autre chose, vous voyez, qui nous envoûtent. Surtout aujourd'hui, où la culture technologique nous entraîne dans la pulsion, dans la virtualisation des rapports. Et... Ah, il faut dire ce qu'est le mien, il ne faut jamais lâcher ce qu'est le mien, mais il faut comprendre que vous voyez, la cohérence, elle, c'est un chemin. Et c'est un long chemin. Même saint Paul dit je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Vous voyez, il vit cet écart-là. Hein, il est charde dans sa chair. Donc, voilà, la pensée de la vertu. C'est, comme l'a très bien dit Ève, quelque chose qui est à partir du déploiement d'une dynamique vivante à l'intérieur de soi, mais qui, à cause de ça aussi, implique, vous voyez, un temps. Et on n'est pas dans une cohérence immédiate. Alors que quand vous êtes dans les valeurs, vous pouvez présenter les valeurs comme des théorèmes mathématiques, des abstractions, et vous pouvez dire, bah, tiens, la cohérence devrait se faire d'elle-même, quoi. Et c'est pour ça que la logique des valeurs, souvent, se retourne contre les défenseurs des valeurs. Parce qu'à la fin, on leur dit « Ah, mais tu regardes, regarde, tu sais, regarde. Hé, Cahuzac. Où ?» Voilà. Bon, on va s'arrêter là, MS. Attendez. Chut, Antoine. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. J'ai lu l'autre jour un texte de Paul VI, du bienheureux Paul VI dans le Magnificat, il disait « Vous devez être cohérent ». Donc je ne suis pas en train de dire que c'est ce mot qui est mauvais, mais qu'est-ce que c'est que devenir cohérent ? Vous voyez, si vous le pensez en termes d'immédiateté, en fait, vous arrivez à des condamnations, des découragements, et en fait à une cohérence inversée. Ou plutôt que de supporter la tension de l'écart entre ce que nous visons, la sainteté que nous visons, et voilà, notre médiocrité, nos rechutes quotidiennes. Mais en même temps, il faut mieux supporter ça plutôt que de chercher une cohérence trop rapide, parce que la cohérence trop rapide, elle se fera forcément dans le fait qu'on va rabaisser notre exigence. On va rabaisser l'exigence. Vous connaissez cette histoire ? Je vais juste... Alors, pour finir. Je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée. J'étais avec le grand rabbin Haïm Korsia vendredi. Je vais la dire avec l'accent, comme ça va être plus simple. Alors, Haïm, il raconte, il dit l'histoire, il dit c'est une publicité. Je ne sais pas si vous avez connu cette publicité, qui était une publicité, vous voyez, à la télévision. Sur un type, il est dans un avion. Et vous voyez, il est au fond de l'avion. Il est pris, là, il est sur son siège, il est tout écrasé et tout. Et tout au fond, au loin, là, vous avez le rideau des classes affaires, des business. Et alors il dit à l'hôtesse de l'air, il lui dit « Madame, en fait, je suis en business class, pourquoi est-ce que je vous m'avez mis ici, là, coincé ?» Elle lui dit « Oh là là, monsieur, je suis désolé, vous êtes en business class, d'accord. » Et vous voyez ce qu'elle fait ? Elle prend le rideau et elle le met derrière lui. Voilà, c'est ça la cohérence. Bon, souvent, vous voyez, c'est ce qu'on fait, la cohérence. C'est cette logique-là, la plupart du temps. On rabaisse. On est cohérent, mais en allant vers le bas. Et même à cause de la compassion, vous voyez, on va encore descendre, vous voyez, pour dire « Ah non, mais t'as pas fait le mal, c'est pas vraiment du mal, parce qu'on t'aime bien, etc. » Et ça, c'est terrible.